Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi RFI. Il est 3h en temps universel, 5h à Paris et à Madrid.
Léa Boutin-Rivière.
Des dizaines de manifestants à Jérusalem contre le gouvernement Netanyahou. Des manifestations ont éclaté en Israël hier après la diffusion d'une vidéo d'un otage du Hamas où il s'en prend à l'actuel exécutif. Pedro Sanchez sur la sellette en Espagne. Le Premier ministre a annoncé réfléchir à sa démission et pour cause, son épouse est visée par la justice dans une affaire de trafic d'influence. Plus de 600 000 morts, dont 95% en Afrique. Journée mondiale de lutte contre le paludisme aujourd'hui, fléau transmis par les moustiques et qui pourrait être aggravé par le changement climatique. Ce n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Hier, le Hamas a publié la vidéo d'un otage kidnappé le 7 octobre dernier lors de l'attaque contre Israël. Il s'agit de Hersh Goldberg Pauline, 24 ans, enlevé alors qu'il participait au festival de musique Nova. Dans ce message vidéo diffusé et non daté, il apparaît amputé de la main et d'une partie du bras et s'en prend directement au gouvernement de Benjamin Netanyahou qui l'accuse de négliger les otages. Une question qui agite l'opinion publique israélienne depuis plusieurs mois. Et hier encore, après la publication de ces images, des manifestations spontanées ont éclaté dans plusieurs villes. C'était le cas à Jérusalem, où sont nos envoyés spéciaux Nicolas Falaise et Nicolas Benita aux moyens techniques.
Sur son t-shirt, un portrait de Hersh Goldberg Pauline et les mots « Ramenez Hersh à la maison ». Noam a le même âge que cet otage qu'il croisait quelquefois au match de foot à Jérusalem. Il est venu manifester ce soir immédiatement après la publication du message vidéo.
Si le Hamas publie une vidéo comme celle-là, c'est sa façon de dire aux Israéliens « Nous voulons un accord, mais votre gouvernement n'en veut pas ».
La preuve de vie de l'otage survient alors que les négociations pour un échange et pour une trêve à Gaza sont enlisées. Et comme Omer, beaucoup ici reprochent à leurs dirigeants d'en être responsables.
Si notre gouvernement ne peut pas les protéger, alors le contrat entre moi en tant que citoyen et mon gouvernement est rompu.
Il y a de l'émotion et de la colère sur ce carrefour de Jérusalem. De la tension aussi. Hélicoptères, canons à eau, police à cheval, sous le regard de Michael venu avec son drapeau israélien.
Netanyahou nous mène à la défaite, à la honte. Et ce gouvernement-là ne va pas libérer les otages, ne va pas gagner la guerre. Il doit démissionner.
Nicolas Benita, Nicolas Falaise, Jérusalem, RFI.
Des manifestations aussi aux États-Unis cette fois, en soutien aux Palestiniens sur les campus de plusieurs universités, ce qui a donné lieu parfois à des face-à-face tendues avec les forces de l'ordre, au Texas, en Californie ou encore à New York, à l'université Columbia. En visite sur le campus, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a menacé « Si la situation n'est pas maîtrisée, il faudra, selon lui, faire appel à la garde nationale ». Le chef d'État Joe Biden a lui aussi pris la parole pour rappeler qu'il soutient la liberté d'expression, le débat et la non-discrimination dans les universités. Sur le terrain, les combats se poursuivent avec des opérations israéliennes hier dans le sud du Liban. L'État hébreu a assuré avoir visé une quarantaine de cibles du Hezbollah et affirme par ailleurs avoir tué depuis le début du conflit la moitié des commandants du groupe armé dans le sud libanais. Toujours des bombardements également dans la bande de Gaza où les préparatifs concernant une opération à Rafah semblent s'accélérer. Des responsables égyptiens indiquent notamment qu'Israël se préparerait à déplacer les civils de Rafah vers Khan Younes, ce qui pourrait prendre entre 2 et 3 semaines. L'Espagne, dans l'incertitude, le pays va-t-il bientôt avoir un nouveau Premier ministre ? L'actuel chef de gouvernement, Pedro Sanchez, a en tout cas laissé entendre qu'il pourrait quitter son poste dans un courrier publié hier sur X. En cause, l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Pedro Sanchez, à la tête du gouvernement espagnol depuis 2018, a donc déclaré avoir besoin de temps de s'arrêter pour réfléchir. Sa décision sera annoncée lundi, Eike Schmidt.
Pedro Sanchez suspend ses activités publiques. Comme il l'écrit dans sa lettre, il veut se donner le temps de la réflexion avant de décider s'il reste ou non à la tête du gouvernement. Dans sa déclaration surprise, le premier ministre dénonce la plainte déposée par l'association Manos Limpias ou Mains Propres qui vise son épouse Begonia Gomez. Elle serait basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par des médias ultra-conservateurs soutenu par l'opposition de droite et de l'extrême droite. « Je ne suis pas naïf », écrit Pedro Sanchez. « Je suis conscient du fait qu'ils portent plainte contre Begonia, non pas parce qu'elle a fait quelque chose d'illégal, car ils savent bien que cela n'est pas vrai, mais parce qu'elle est mon épouse. » L'enquête porte sur les liens de Begonia Gomez avec le groupe espagnol de tourisme Globalia, propriétaire de la compagnie aérienne Air Europa, à un moment où celle-ci négociait un plan de sauvetage de 475 millions d'euros avec le gouvernement de Pedro Sanchez.
Rieke Schmidt. Politique aussi en France, où à 45 jours des européennes, les partis accélèrent leur campagne. Hier, la tête de liste socialiste, Raphaël Glucksmann, a tenu un meeting à Strasbourg où, devant 600 personnes, il a vanté la nécessité d'une défense européenne et où il a par ailleurs taclé le président Emmanuel Macron, accusé de faillite stratégique. Le chef d'État, qui est attendu à l'université de la Sorbonne à Paris à 9h, temps universel, pour un grand discours sur l'Europe. Il devrait y développer ses idées pour une Europe puissante. Mais pour les observateurs, il s'agit aussi d'une façon de passer à l'offensive, alors que la chef de file de son camp, Valérie Ayer, peine à tracer son sillon dans la campagne. C'est la première cause de décès des enfants au Burkina Faso, au Sénégal ou encore au Togo. Ce 25 avril marque la journée mondiale de lutte contre le paludisme, maladie transmise par certains moustiques et qui touchait près de 250 millions de personnes en 2022. Il existe des raisons d'espérer avec des vaccins qui réduisent la mortalité chez les enfants, mais il y a aussi de quoi s'inquiéter, car un facteur favorise ces dernières années la propagation du paludisme, c'est le réchauffement climatique, Margot Ratézic.
Le changement climatique offre aux moustiques un terrain de reproduction idéal. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on le sait, les moustiques prospèrent dans les plans d'eau stagnantes et avec l'augmentation de la température, on observe de plus en plus d'épisodes pluvieux et d'humidité et donc de meilleures conditions de reproduction pour les insectes vecteurs de la maladie. Ces dernières années, plusieurs pays comme le Malawi ou le Pakistan ont été touchés par des épisodes climatiques extrêmes. On parle de cyclones ou d'inondations et dans les deux pays, une hausse des cas de paludisme a été observé à cause des mares d'eau stagnantes formées par le retrait des eaux. Des zones qui n'étaient jusqu'à présent pas touchées par le paludisme se retrouvent donc exposées. En clair, plus la planète se réchauffe, plus l'aire de répartition des moustiques s'étend. Et cela concerne aussi d'autres maladies. Avec le dérèglement climatique, le moustique transmetteur de la dengue s'est adapté au climat de la France. Conséquence, de nombreux cas autochtones ont été observés l'année dernière dans l'Hexagone, c'est-à-dire des cas transmis par un moustique déjà présent sur le territoire.
Margot Ratézy, qui on termine ce journal à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où les régulateurs des médias des pays francophones et les représentants des principaux réseaux se sont rencontrés pour discuter de la consolidation du dialogue afin de mieux réguler les plateformes numériques. Binta Diagne.
Principal acquis de cette déclaration d'Abidjan, les plateformes numériques s'engagent à désigner un point de contact unique pour les autorités publiques afin d'assurer une fluidité en cas de signalement d'une dérive. Autre engagement, mettre en place des moyens de modération des contenus partagés dans toutes les langues officielles du réseau des régulateurs des médias francophones, car jusque-là, cet aspect représente une faille, comme l'explique Christian Bossembe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC.
Nous avons à peu près 400 langues. Nous avons à peu près 400 ethnies. Donc si une seule, deux ethnies se battent parce que l'une pense qu'elle est supérieure à l'autre, elle se refuse de parler lingala ou le français, mais elle se permet de parler en chiluba, elle se permet de parler en kikongo. Donc vous voyez dans quelle mesure on sera dans l'incapacité de réguler cela, puisque nous n'avons pas la même mise sur les plateformes et les plateformes non plus n'ont pas la capacité de réguler les mots.
La plateforme Google travaille sur 15 langues qui devraient d'ici la fin de l'année être intégrées à ses produits. Pour l'heure, des études sont menées à Nairobi et à Accra. Princila Boage est responsable des institutions panafricaines des affaires gouvernementales et politiques publiques de Google.
On a des chercheurs qui travaillent justement sur le sujet pour essayer d'intégrer les langues locales dans nos systèmes d'intelligence artificielle pour la détection des phrases, de l'incitation à la violence.
Les régulateurs des médias et les représentants de TikTok, X, Google et Meta devraient à nouveau se réunir dans le cadre d'un forum d'ici la fin de l'année. Binta Diana Bidjan, RFI.
RFI, il est 5h10 ici à Paris. Merci d'être fidèle à la Radio du Monde.